Voici un enseignement donné dans le cadre de l'église réformée baptiste de Neuchâtel. Avant d'entendre cet enseignement, vous entendrez la lecture de textes bibliques, fondement infaillible de ce qui sera ensuite partagé, avec l'humble désir que cela soit profitable dans la main de Dieu pour celui qui l'écoute.
Nous allons lire les textes de la prédication et je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Habacouc. Habacouc chapitre 1, verset 1. Voici la menace dont le prophète Habacouc eut la vision. Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours? Sans que tu écoutes, te crierai-je violence? Sans que tu sauves? Pourquoi me fais-tu voir le mal et regardes-tu l'oppression? Pillage et violence sont devant moi. Il y a contestation et la dispute s'élève. C'est pourquoi la loi est paralysée et le droit n'est jamais établi. Car le méchant assaille le juste, c'est pourquoi un droit perverti s'établit. Voyez, regardez parmi les nations. Soyez dans la stupéfaction et la stupeur, car quelqu'un est en train d'accomplir en votre temps une œuvre. Que vous le croyez, que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Voici, je fais surgir les Chaldéens, ce peuple impitoyable et impétueux, qui traverse des étendues de pays pour s'approprier des demeures qui ne sont pas à lui. Verset 12. Mais toi, n'es-tu pas depuis toujours Éternel, mon Dieu, mon Saint? Nous ne mourrons pas. Éternel, tu l'as établi pour le jugement. Mon rocher, tu l'as affermi pour châtier. Tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Tu ne peux pas regarder l'oppression. Pourquoi donc regardes-tu les traites? Gardes-tu le silence quand un méchant engloutit un plus juste que lui? Chapitre 2, verset 1. Je vais prendre mon tour de garde. Je vais me tenir sur le rempart. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Et ce que je répliquerai au sujet de mes doléances, l'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une vision dont l'échéance est fixée. Elle aspire à son terme. Elle ne décevra pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement, elle ne sera pas différée. Voici que son âme est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Verset 19. Malheur à celui qui dit au bois, lève-toi, à la pierre silencieuse, réveille-toi, enseigne-t-elle? La voilà plaquée d'or et d'argent, mais en elle, pas le moindre esprit. En revanche, l'Éternel est dans son saint temple. Que toute la terre fasse silence devant lui. Chapitre 3, verset 1. Prière du prophète Habacouc, sur le mode des complaintes. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. J'ai de la crainte, Éternel, devant ton œuvre. Accomplis-la dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Verset 18. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, mon Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait marcher sur les hauteurs. Au chef de cœur, avec des instruments à cordes. Jusqu'ici, la lecture des textes de la prédication.
Jésus a annoncé qu'il retournerait vers son Père et qu'il enverrait son Esprit. Et il a tenu parole. Il a envoyé son Esprit et s'étant comptant sur son œuvre ce matin que nous voulons saisir ce que Dieu veut nous dire dans cette parole qu'il nous a donnée dans notre langue jusqu'à ce jour. Dans notre série de des 12 prophètes, nous arrivons au 9e prophète, qui est aussi en fait le dernier prophète avant l'exil. Les 3 derniers seront des prophètes qui ont vécu et parlé de la part de Dieu après le retour d'exil à Babylone. Alors, ce prophète ne nous amènera pas dans divers endroits du pays, proclamant à grands cris la situation du peuple et le jugement annoncé de Dieu. Un jugement annoncé, comme nous l'avons vu, comme étant un appel à la repentance. Quand Dieu annonce son jugement, c'est un appel à la repentance. Habacouc ne nous conduit pas dans un ministère public, mais plutôt dans ses questionnements et son cheminement personnel. À l'image de Job, il commence son livre par des questions. Il interroge l'Éternel et il clôt son livre en louant l'Éternel. Il commence par des questions. Pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi Dieu permet-il ces choses? Habacouc est un homme sérieusement troublé par les événements qu'il vit et il cherche à réconcilier ce qu'il observe avec ce qu'il croit. Et nous allons ensemble suivre son cheminement par 6 petites réflexions qui ont ce titre. La première, interrogation du prophète et réponse de Dieu. Interrogation du prophète et première réponse de Dieu. Ensuite, la perplexité du prophète face à cette réponse que Dieu lui donne. Nous verrons ensuite l'attente du prophète, l'écoute du prophète, la prière du prophète et la conclusion du prophète. Voilà, nous allons simplement cheminer avec Habacuc ce matin dans ce livre que je vous invite à avoir sous vos yeux. Nous commençons par cette première partie, interrogation du prophète et réponse de Dieu, ce sont les 11 premiers versets du chapitre 1. Face à tout le mal, l'oppression, le pillage, les violences, la contestation, les disputes, le droit bafoué et la victoire apparente du méchant, Habacuc voit Dieu étrangement silencieux. Habacuc est dans la même situation qu'Asaph qui a écrit le psaume 73. Et nous pourrions dire, hein, si on se posait des questions aussi, pourquoi Dieu permet-il les événements qui sont actuellement dans le monde? Pourquoi permet-il que notre pays vote des lois contre l'enseignement biblique? Pourquoi permet-il même parfois un manque d'amour dans son Église? Pourquoi permet-il une opposition montante à ceux qui veulent fidèlement servir sa parole dans notre pays? Pourquoi permet-il aux pensées du monde d'entrer dans les réflexions de l'Église? Pourquoi Dieu n'a-t-il pas encore répondu aux prières d'un réveil? Pourquoi? Jusqu'à quand, Éternel, appellerai-je au secours sans que tu écoutes? Jusqu'à quand? C'est le cri de cœur d'Habacuc ici dans ce texte, qui peut aussi être le nôtre d'ailleurs. Et face à ces interrogations que nous pouvons tous avoir, Dieu répond à Habacuc. Face à ces interrogations que nous pouvons avoir, Dieu répond à Habacuc qui est surpris et qui ne comprend pas. Il est surpris et ne comprend pas. Alors sûrement, Habacuc, comme nous, attendait que Dieu change le cœur des personnes et amène des jours meilleurs pour son peuple sans souffrance ni perturbation. Mais voilà que la réponse de Dieu au mal commis est le jugement par un peuple pire encore. De plus, Dieu va utiliser les Chaldéens, qui sont les Babyloniens, qui commettent bien plus de mal qu'Israël, qui sera jugé pour ses péchés. Et là, il est vraiment dans un questionnement. Et ici, je trouve intéressant ce que disait Martin Lloyd-Jones concernant la réponse de Dieu, de ce qu'on peut même comprendre. La leçon importante à tirer de tout cela est la suivante. Et là, il vient dans notre actualité. Si nous n'envisageons pas les choses de manière juste, nous conserverons et orienterons mal nos prières. Nous devons prendre conscience de la vraie condition de l'Église et reconnaître son iniquité. Nous devons comprendre que Dieu peut utiliser les forces les plus opposées de l'Église pour accomplir ses desseins, comme il l'a fait avec les Chaldéens pour Israël. Nous pouvons amener nos questions à Dieu, et il est bon de le faire. Mais ne soyons pas surpris qu'il y réponde parfois de manière surprenante pour nous. Et justement, cette réponse laisse le prophète perplexe. C'est notre deuxième partie, la perplexité du prophète, des versets 12 à 17. Comment réagir face à la perplexité que suscitent certaines réponses de Dieu? Comment est-ce qu'on va réagir? J'aimerais vous présenter une bonne méthode, c'est pas la méthode, il y a plusieurs éléments, mais une bonne méthode à utiliser que Habacuc met en pratique ici. On verra 4 éléments, je vous les donne, puis ensuite on va s'arrêter courtement sur chacun d'eux. Premier élément, arrêtez-vous et réfléchissez. Arrêtez-vous et réfléchissez. C'est ce que fait Habacuc d'ailleurs. Deuxièmement, donc on y reviendra, deuxièmement, revenez au fondement. Revenez au fondement. Troisième élément, placez le problème, cette fois-ci on revient au problème, mais placez-le en face des fondements. Et puis quatrièmement, remettre le problème à Dieu avec foi. Remettre le problème à Dieu avec foi. Donc je reprends ces 4 éléments pour un tout petit peu les souligner, voir comment Habacuc les met en pratique. Donc arrêtez-vous et réfléchissez. Bon là peut-être que le texte de Jacques 1,19 vous vient facilement à l'esprit. Que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Réfléchir. Habacuc se met à réfléchir. À réfléchir à qui est Dieu. Il s'intéresse au contexte du problème et se met à penser. Et devant une interrogation que nous pouvons avoir dans notre vie, arrêtons-nous et réfléchissons. Et cette réflexion doit nous amener à revoir les points fondamentaux. Se détourner du problème pour se tourner vers Dieu, hein, c'est vraiment le mouvement qu'on doit avoir. Et là, deuxième élément, donc revenez au fondement. Il ne faut pas commencer par retourner le problème que nous avons dans tous les sens. Mais nous devons premièrement nous rappeler des choses dont nous sommes absolument certains. Il y a des choses dont nous ne sommes pas certains, mais il y a des choses dont nous sommes certains. Et c'est important de se rappeler de ces choses-là. Lorsque nous marchons en montagne et que nous devons traverser un marécage, parce que ça vous est déjà arrivé, sinon vous pouvez imaginer, nous cherchons des endroits solides qui ne s'enfoncent pas, où nous pouvons passer. Eh bien, de même, pour les questions difficiles, nous cherchons les endroits solides, les fondamentaux dont nous sommes sûrs pour pouvoir passer. Hein. Face aux questions difficiles, comme il est bon de rassurer notre âme en lui rappelant ce qui ne fait pas l'ombre d'un doute. Par exemple, que Jésus-Christ est venu sur terre, qu'il a tout accompli sur la croix et qu'il est ressuscité, que l'Évangile est notre source de grâce et de pardon dans laquelle nous pouvons puiser pour les donner aux autres. C'est certain. Ce sont des choses qui sont certaines. Habacuc, lui, souligne que Dieu est depuis toujours. Dieu n'a pas de fluctuation. Hein, il n'est pas un bébé qui grandit et puis on ne saurait pas à quel stade il en est actuellement. Non. Dieu est depuis toujours complet et parfait. C'est stable. Habacuc souligne que Dieu est saint. Dieu ne fera jamais quelque chose d'injuste. Jamais. Il est saint. Il est parfait. Habacuc parle encore de la toute-puissance de Dieu, de sa fidélité. Se rappeler des choses dont on est absolument certain, c'est important. Et ensuite, nous allons, troisièmement, placer le problème face à ses fondements. Le problème doit être ensuite regardé à la lumière des fondements qui ont été vus précédemment. Par exemple, si le problème est en lien avec l'inaction de Dieu, il faut le mettre en lien avec le caractère de Dieu, qui est patient, bienveillant, juste, qui est souverain de toute l'histoire de l'humanité. En fait, nous vivons qu'à un point donné de l'histoire. L'histoire, c'est beaucoup plus large que ce qu'on est en train de vivre maintenant. Beaucoup plus large. Hein? Donc, nous ne percevons que ce point de l'histoire. Et ce qui signifie que si on a l'impression que Dieu n'agit pas, ça ne veut pas dire qu'il n'agit pas dans l'histoire. Ça veut dire simplement qu'on a une impression de ce moment où nous sommes. Et par rapport à la patience de Dieu, certains peuvent se moquer de nous, dire « Vous dites que le Seigneur va revenir ». Ben, on a un texte dans la parole de Dieu qui répond très clairement, hein, dans 2 Pierre 3:9, qui dit « Le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse ». Vous pouvez croire qu'il est inactif, mais il ne la retarde pas, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous, il ne veut qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur arrivera comme un voleur, et en ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec leurs œuvres qu'elle renferme sera consumée. Et là, ce sera trop tard. Mais jusque-là, si Dieu ne revient pas maintenant, s'il ne manifeste pas son retour par Jésus-Christ, c'est parce qu'il est patient, c'est pas parce qu'il est inactif. Le problème d'Habacuc, après la première réponse de l'Éternel, était que, bien sûr, il voyait que Dieu était inactif, mais la première réponse dit qu'il va utiliser des gens terribles, qui sont vraiment mauvais, hein, des gens très mauvais, pour venir juger un peuple qui pêche. Bon, il est quand même moins mauvais que ce peuple babylonien qui n'a rien à voir avec Dieu, franchement. Et là, il ne comprend pas. Et même en mettant face à qui est Dieu, face à la sainteté de Dieu, il ne comprend pas. Il peut arriver dans notre vie que même si on reprend les fondements, qu'on est rassuré, qu'on les met face à le problème face aux fondements, on n'arrive pas encore à comprendre, on est troublé. Et malgré son exercice de mettre le problème dans son contexte, Habacuc n'arrive pas à saisir. Alors que fait-il? Il le laisse à Dieu. Il le laisse à Dieu. C'est notre quatrième élément. Il remet son problème à Dieu avec foi. Habacuc amène son problème non résolu à Dieu et le lui laisse. Un chrétien peut avoir de telles questions irrésolues pendant des semaines, des mois, des fois des années. Il y a des choses qu'on ne peut pas résoudre. C'est vrai même de comprendre. D'ailleurs, Jésus lui-même, dans une situation similaire dans le jardin de Gethsémané, a dit « S'il est possible que cette coupe s'éloigne !» Cela montre son questionnement. Mais continuez dans sa prière. Et il disait, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il remet cette question à son père et il agit avec soumission. Si je résume cette méthode que je vous propose face à ces situations, quel que soit le problème, arrêtez-vous pour réfléchir. Établissez les principes de base et placez le problème dans ce contexte. Là, très souvent déjà, on peut déposer, on est rassuré, ou même parfois on comprend. Et puis si vous êtes troublé, apportez-le à Dieu et laissez-le lui en agissant avec soumission à ce que vous connaissez. On va encore voir comment le prophète les laisse à Dieu. Après avoir remis sa question irrésolue de Dieu, le prophète attend. La troisième partie, le prophète attend. On peut se concentrer particulièrement au verset 1 du chapitre 2. Habacuc nous indique ici une attitude de foi. Il n'a pas simplement rejeté son fardeau sur Dieu, et puis ensuite il l'oublie. Mais non, il attend une réponse. Il attend une réponse de Dieu. Il a la foi. Et d'autre part, donc premièrement, il attend, et d'autre part, il va sur le rempart pour guetter, pour voir. Il va pas se coucher dans son lit, puis ok, bon, on verra bien comme ça. Non, il va sur le rempart, il guette. Il va dans un endroit élevé pour avoir l'esprit ouvert, pour voir tout ce qui peut arriver. Il ne demande pas simplement à Dieu de s'occuper de son problème, et ensuite, dès que sa prière est finie, il recommence à se faire du souci au sujet de ce problème. Habacuc ne demande pas simplement à Dieu de s'occuper de son problème et ensuite, dès que sa prière finit, il recommence à se faire du souci au sujet de ce problème. Non, il laisse Dieu prendre soin de son problème et se met proche de lui. Je te donne et je viens tout près de toi. Étant élevé pour avoir une vue globale et attentif pour recevoir la réponse d'où qu'elle vienne. Parce qu'on a confiance que Dieu a une réponse, même si on ne sait pas d'où elle viendra. Habacuc n'arrive pas à concilier cette annonce de jugement par les Chaldéens avec la sainteté de Dieu. Mais il pouvait apporter le problème à Dieu. Et il le fit. Et après cela, il regarda à Dieu et cessa de contempler son problème. Il regarda à Dieu. En fait, il a mis en pratique Philippiens 4 qu'il connaissait pas encore lui, mais il le mettait déjà en pratique, ce Philippiens 4, 6 et 7 que plusieurs aiment ici, qui dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose pour la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, écoutez bien ce qu'il fait, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Pas dans la réflexion de vos problèmes, pas dans le fait qu'on oublie puis on verra bien si quelque chose arrive, mais en Jésus-Christ, dans cette notion qu'il va prendre soin. Habacuc a déposé sa question et il veille. Et il était certain que Dieu allait répondre. Alors il attend une réponse. Vous savez, si votre enfant, alors si vous n'avez pas d'enfant, vous imaginez, c'est pas bien difficile pour les plus jeunes, j'imagine avec eux. Si un enfant vous demande s'il peut avoir une glace, est-ce que je pars une glace? Puis juste après, il va continuer de jouer. Ça en va, voilà. Il n'attend même pas la réponse. Qu'est-ce que vous allez penser de sa demande? Habacuc veille et nous le voyons récompensé. Il reçoit une réponse de Dieu. Et nous arrivons au point suivant, le point 5, l'écoute du prophète. Il écoute les versets 2 à 20 du chapitre 2. Et Dieu révèle à Habacuc ce qui va arriver. Il lui révèle. Dieu lui révèle un élément fondamental, fantastique, où j'aurais envie de faire une prédication complète, mais ça sera qu'une petite phrase ce matin, qui dit que le juste vivra par sa foi. C'est ce qu'il dit au prophète. Il lui révèle ce qui va se passer, il lui annonce qu'il va juger aussi ses Chaldéens d'ailleurs, mais il dit c'est le juste vivra par la foi. Nous ne voyons pas encore ce qui est devant nous, mais par la foi nous pouvons être pleins de confiance, dans la paix. On est dans la même situation de celui qui n'a pas la foi, mais on est dans la paix, parce que nous savons ce qui vient devant nous. Dieu annonce que la terre sera remplie de la connaissance et de la gloire de l'Éternel. C'est extraordinaire ce qui est dit dans ces textes ici, de ce que Dieu va faire. Il dit, mais oui, c'est ça qu'il va faire. Et Dieu indique que l'Éternel est dans son saint temple et que toute la terre fait silence devant lui. Il est souverain, il contrôle toute chose. Il contrôle ses Chaldéens. Oui, c'est vrai qu'ils sont pires peut-être que les Israélites. Mais c'est l'instrument que Dieu utilise et ils devront eux rendre compte de leurs actes devant Dieu. C'est ce que Dieu dit à Habacuc, que les Chaldéens devront s'y rendre compte. Et c'est encore le cas aujourd'hui pour les grandes puissances. Le jour va venir avec certitude où tout genou fléchira devant Jésus-Christ. Tout genou fléchira devant Jésus-Christ dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Même ceux qui n'en ont rien à faire de Dieu, même ceux qui pensent même qu'il n'existe pas, ils vont tous être à genoux devant Jésus-Christ. Et Habacuc croit Dieu simplement parce qu'il l'a dit. C'est la foi, hein. Il le croit parce qu'il l'a dit. Comme d'autres avant lui. Par exemple, Abraham. Pourquoi a-t-il pris Isaac pour le conduire sur la montagne et qu'il était sur le point de sacrifier son fils? Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi? Simplement parce que Dieu lui avait dit de faire. Point. Il n'y a pas d'autre explication. Il avait la foi. Dieu lui dit et il le fait. En plus, ça c'était quelque chose de vraiment extrême. Dieu l'a arrêté évidemment et a démontré qu'Abraham avait eu cette foi. C'est cette foi-là que nous voulons vivre. Vivre par la foi signifie encore plus que cela. Cela veut dire également que nous basons toute notre vie sur la foi en Dieu. Toute notre vie, tout ce que nous vivons. Et les hommes de foi listés dans Hébreux 11 misaient, ils misaient tout, s'il faut miser quelque chose, ils misaient tout sur la parole de Dieu. Et ils étaient prêts même à souffrir pour elle et à tout perdre si c'était nécessaire. C'est là que ça va démontrer notre foi. Est-ce qu'on est prêt à tout perdre? Est-ce qu'on est prêt à souffrir pour avoir cette parole, pour la vivre, même si d'autres ne sont pas contents avec le fait qu'on vive la parole de Dieu? Est-ce qu'on va continuer à le faire quand même? Et nous arrivons à la partie suivante, chapitre 3. On arrive au chapitre 3. Le prophète, donc, au début, avait ses questionnements. Il questionne Dieu, un peu comme Job qui questionne. Dieu lui répond qu'il y aura un jugement qui viendra juger ce peuple d'Israël. Parce que quand il questionne, il dit, mais pourquoi il y a tout ce mal dans Israël, etc. Dieu dit, je viens juger. Oh là! Ouais, mais bon, là, tu utilises des gens qui sont vachement plus graves, méchants que nous. Je comprends pas. Et là, Dieu lui répond. Il lui dit, mais ils seront aussi jugés. Reviens à ce que toi, tu vis. En regardant le pire, souvent, on regarde même plus chez nous. Et que fait Habacuc? Il commence à prier. C'est la partie 3. La prière du prophète. On va voir le verset 1 à 15, puis après on arrivera à la conclusion de ce que le prophète dit. Le chapitre 3 est une prière d'Habacuc qui nous permet maintenant de réfléchir à des éléments essentiels de la prière. Ce n'est pas tous les éléments, c'est certains éléments essentiels qu'on retrouve ici. Il y en a 3 que j'aimerais souligner avec vous. Le premier élément essentiel, je vous les donne les 3, puis on les développe. Le premier, c'est l'humilité. L'humilité est un élément essentiel de la prière. Deuxième élément essentiel, c'est l'adoration. On ne va pas prier Dieu sans avoir un esprit d'adoration. C'est Dieu, c'est pas n'importe qui. Et troisièmement, la supplication. Et nous verrons la manière que Habacuc le fait ici. Donc l'humilité, l'adoration et la supplication. Le verset 2 est un verset clé du chapitre 3, qu'on pourrait même simplement prendre pour ces 3 éléments, mais on les retrouve dans tout le chapitre. Le verset 2 nous aide à comprendre l'humilité d'Habacuc dans la reconnaissance du péché qui doit être jugé et une soumission totale à ce jugement. Je vous le lis. Hein. Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. C'est vrai en fait, c'est vrai. J'ai de la crainte, Éternel, devant ton œuvre. C'est juste le jugement que tu vas faire. Accomplis-le dans le cours des années. Dans le cours des années, fais-la connaître ton œuvre. J'ai pas tellement envie que tu fasses ce jugement. Mais c'est juste. Alors fais-le. Et il termine par cette phrase que nous disons aussi, disons-le. Mais dans ta colère, souviens-toi de ta compassion. Souviens-toi de ta compassion. Pas de comme je suis bien. Parce que là, ça ne veut pas bien aller. Mais de ta compassion. On s'appuie sur Dieu lui-même. Habacuc, qui est le dernier prophète que nous voyons avant l'exil, comprend que ce jugement des Babyloniens va arriver. Cette inéluctable. Ouais, c'est pour le Scrabble si jamais, ou pour apprendre un nouveau mot pour les plus jeunes peut-être. Inéluctable. Ça va arriver. Et il ne contredit pas Dieu. Il n'est pas en train de dire non, ne fais pas ça. Je sais que c'est juste et c'est clair, clairement là. Et Habacuc par contre plaide pour la compassion. Il connaît Dieu. Il n'essaie pas de défendre Israël ou lui-même. Hein, il dit, mais on est quand même moins pire que ceux. Non. Nous avons péché. Nous méritons ce jugement, mais je me confie à ta compassion, à ta compassion. Habacuc, en fait, a détourné son regard des Chaldéens qui étaient pires que son peuple pour les tourner vers le Dieu Saint. Et dès qu'on se tourne vers le Dieu Saint, nous sommes le pire de tous. Hein. Parce qu'on se rend compte que devant la sainteté de Dieu, nous sommes vraiment des pécheurs, bad pécheurs, si vous voulez. Et c'est là que nous cherchons non plus à dire « mais il est pire que moi !» mais plutôt à dire « Seigneur, tu es plein de grâce. C'est vers toi que je me tourne. Je ne me tourne pas vers les autres, je ne regarde pas les premiers, je ne tourne même pas vers moi, j'ai aucun mérite. Je me tourne vers toi qui es plein de grâce. » Et Habacuc est à présent soucieux de la gloire de Dieu lui-même et rien d'autre. Le fait que d'autres personnes soient pires que moi ne signifie pas que tout va bien chez moi. Habacuc reconnaît maintenant son péché et implore sa grâce. Tout cela manifeste l'humilité dans la prière d'Habacuc. Comme je vous ai dit, c'est un des points principaux d'une prière, l'humilité. Est-ce que nos prières sont humbles? Est-ce que nos prières sont humbles? Mais il est en train de dire, bon Seigneur, pardonne-moi, c'est vrai, ce que j'ai fait, c'est pas sympa. Mais bon, il y a quand même vraiment pire. Hein. C'est pas de l'humilité. Deuxième élément dans la prière d'Habacuc que nous pouvons prendre avec nous, c'est l'adoration. Habacuc adore Dieu et souligne cette adoration en parlant de ce que Dieu a fait. Et là, il y a beaucoup d'images dans ce texte. Hein. Si vous lisez un peu, vous méditez, vous dites, mais en fait, il est en train de raconter tout ce que Dieu a fait avec Israël ici. Dieu couvre les cieux et la terre. Habacuc l'adore pour sa majesté et sa grandeur. C'est la création. Il parle des plaies d'Égypte en parlant de la peste. Il parle de la mer dans laquelle le peuple est entré et ensuite l'armée égyptienne a été décimée. Habacuc parle de la bataille où Dieu a arrêté la lune et le soleil. Il fait ce que Dieu a fait. Il dit ce que Dieu a fait pour l'adorer. C'est toi qui as fait ça. Je veux le dire, je veux le proclamer parce que je t'adore. Des fois, j'entends des gens qui me disent « Ouais, j'adore telle personne. » Moi, j'aime pas ça, mais bon. C'est chacun libre d'utiliser ce genre de langage. Mais j'aime pas ça, parce que pour moi, on adore Dieu seul. Mais là, vous pouvez dire, j'adore Dieu! Et je l'adore tellement que je veux dire ce qu'est-ce qu'il fait de bien. J'exprime, en fait, son œuvre. Et en tout cela, Habacuc manifeste une attitude d'adoration respectueuse. Lorsqu'il dit, j'ai de la crainte. Pas une crainte où je pars en courant, mais une crainte où je veux respecter celui à qui je parle. Est-ce que nos prières sont des adorations respectueuses? Dieu n'est pas notre pote. On ne lui parle pas, il dit, mon pote, qu'est-ce que tu penses? J'aimerais te dire ça, ouais, puis fais ceci. Oui, nous pouvons aller avec confiance auprès de Dieu. Et ça, c'est un privilège qui est juste énorme. Il est notre Père qui prend soin de nous, c'est vrai. On peut aller avec confiance. Mais nous n'allons pas lui parler sans le respect que nous vouons à ceux que nous respectons et craignons le plus. Il est Dieu. Et nous allons avec une confiance respectueuse auprès de Dieu. L'humilité, l'adoration respectueuse. Et le troisième élément, la supplication. Habacuc demande à Dieu d'accomplir son œuvre. Peu importe que mes concitoyens et moi-même aurons à souffrir, pourvu que ton œuvre s'accomplisse. C'est là qu'on arrive quand on veut que Dieu agisse, même si ça va me faire du mal, que je vais souffrir. Je dis, Seigneur, vas-y, parce que c'est ta gloire que je veux. C'est pas mon bien-être personnel, c'est ta gloire. Habacuc ne supplie pas d'avoir une meilleure santé, un travail, une maison confortable, mais que l'œuvre de Dieu s'accomplisse. On verra la fin du chapitre qui explique ça justement. Et Paul Lucien dans un livre dit ceci que je trouve intéressant, parce que ça nous fait réfléchir à pourquoi nous prions. Alors là, je parle des parents d'ados, ben, on pourrait après parler des ados par rapport aux parents, etc. Hein? Mais je prends que cet exemple-là. Nous prions volontiers avec des parents pour que leur adolescent égaré revienne dans le droit chemin. D'accord, on prie volontiers avec des parents pour que leur adolescent égaré revienne dans le droit chemin. Mais rarement pour que les parents cessent d'être anxieux, amers, passifs ou contrôlants. Prions pour ce que Dieu veut accomplir dans le cœur. J'ai dit, on peut inverser, on peut prendre d'autres exemples, hein, mais vous comprenez la notion. Dieu va accomplir une œuvre dans nos cœurs en faisant grandir le fruit de l'esprit qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. C'est ça qui veut faire grandir dans nos cœurs. Prions pour ça, pour ceux qui sont autour de nous. Demandez aux gens de prier pour ça, pour nous. Est-ce que nos prières incluent des supplications en lien avec l'œuvre annoncée de Dieu? Est-ce que nous supplions que Dieu fasse cette œuvre-là dans nos vies? Nous arrivons à la dernière partie où le prophète va conclure cette prière, les versets 16 à 19. Habacuc a commencé par tourner ses regards vers les problèmes, pour terminer à les tourner vers l'Éternel. C'est vraiment le mouvement que nous sommes appelés à faire. On est parfois accaparé par notre problème. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Le laisser. Je n'ai pas dit l'abandonner pour ne pas le régler, mais le laisser un instant pour aller vers Dieu. Mais réellement le laisser pour aller vers Dieu. Et là, comme Job, il dit, j'ai entendu. Habacuc, face à l'Éternel, se sent tout petit. Et il réagit comme l'aurait fait un petit enfant qu'un parent aurait réprimandé. Il a des palpitations, des lèvres frémissantes. Hein, vous avez déjà vu un petit enfant quand il va pleurer. Vous voyez que la lèvre en bas, elle commence à trembler. Vous avez déjà vu ça? Il retient ses larmes. Bon, vous savez que ça va arriver. Je veux dire. Ben, il vit exactement ça devant Dieu. Il est adulte, lui. Il vit ça. Il dit, mais c'est vrai, Seigneur. Je me suis concentré sur ces problèmes, je ne me suis pas concentré sur toi. Et même, il commence à même frémir en voyant le jugement, parce que ce n'est pas facile, le jugement. Et il frémit jusque dans ses os, parce que le jugement de Dieu va réellement arriver. Vous savez, dès que Dieu est apparu à Habacuc, il a mis fin à ses protestations enflammées. Il était devant Dieu. Et soudain, son ton de voix est passé de celui du désespoir amer à celui d'une assurance et d'un espoir ferme. Regardez avec moi le verset 17 et 18. On va chercher à les comprendre, justement. Le début paraîtra un peu bizarre, mais je vais vous l'expliquer. Car le figuier ne fleurira pas. Point de vendange dans les vignes. La production de l'olivier sera décevante. Les champs ne donneront pas de nourriture. Le petit bétail disparaîtra de l'enclos. Point de gros bétail dans les étables. Mais moi, j'exulterai en l'Éternel. Je veux trouver l'allégresse dans le Dieu de mon salut. La joie d'Habacuc est maintenant débordante. Et son espoir n'est plus. On pourrait même dire que sa joie est plus débordante que son désespoir a été profond. Il arrive à trouver le repos absolu dans la souveraineté de Dieu. En fait, si on traduit un peu ce qu'il dit dans ce verset 17, qui paraît un petit peu étonnant dans le langage d'aujourd'hui, ça pourrait ressembler à ceci. Même si une puissance réputée plus méchante effectue un jugement, même si le budget n'est pas équilibré, même si la bourse s'effondre, même si le prix de la nourriture est exorbitant, même si mon enfant ne trouve jamais la santé, même si je perds mon emploi, même si nous perdons notre maison, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel est ma force. Waouh! Quel cheminement il a fait! Quel cheminement il a fait! Rappelez Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que l'Éternel soit exalté, soit loué, soit adoré. Que le Seigneur nous donne d'arriver à ce point-là, où on ne peut pas seulement le dire, mais le vivre. Parce que le dire, c'est déjà une chose qui n'est pas toujours facile, déjà même le dire. Et le vivre, c'est encore une autre étape. Si quelque chose s'en va, si on nous prend quelque chose, si on nous vole ou toutes sortes de choses, qu'est-ce qui va se passer? On va se réjouir en l'Éternel. Parce que l'Éternel est notre force. Et non pas cette chose ou cette voiture ou cette maison, ce travail qu'on nous prend. C'est l'Éternel notre force. Qu'importe ce qui peut arriver, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. C'est ça notre force. Et ça, personne ne peut nous l'enlever. Personne. C'est ça la foi. En toutes circonstances, nous pouvons tourner nos regards vers notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Parce que nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui puisse compatir nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Il nous comprend. Je me dis, mais comment vivre sans la foi? Comment vivre sans Jésus-Christ? Il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Alors quand Jésus-Christ, et là je vous lis un chant, un poème que je trouve magnifique, qui dit « En Christ seul est mon espérance ». Sa justice est mon assurance. Il est devant Dieu mon appui. Je ne veux point d'autre que lui. Tout autre asile est périssable. Tout autre appui n'est que du sable. Qui n'a posé ce fondement travaille et souffre vainement. Lorsque sur moi s'abat l'orage, sa croix ranime mon courage. Quand tout faiblit autour de moi, sa présence soutient ma foi. Jésus est ma retraite sûre, le rocher en qui je m'assure. Je prie que ça soit le cas pour chacun de nous. Et je laisse la conclusion au pasteur Lloyd-Jones qui dit ceci. Le message de ce livre est le suivant. Alors lui, il le tournera plus de façon, je dirais, avec les ne pas négativement, puis ensuite on le verra positivement. Donc si nous ne nous humilions pas sincèrement, oubliant de nous comparer aux autres et ceux qui sont pires que nous, si nous ne nous voyons pas tels que nous sommes aux yeux de Dieu, si nous ne confessons pas nos péchés et nous ne nous plaçons pas dans la main du Tout-Puissant, nous ne pouvons espérer ni paix ni bonheur. Alors cette semaine, lorsque nous serons tentés de nous comparer au pire que nous, rappelons-nous que la grâce de Dieu est aussi pour nous. Il n'y a pas besoin de comparer à pire que nous. Si nous avons péché, la grâce de Dieu est aussi pour nous. Cette semaine, lorsque nous demandons pourquoi Dieu n'agit pas comme nous le pensons ou le souhaiterions, que nous avons envie de dire à Dieu « Où es-tu ?» Eh bien, pensons à Habacuc et trouvons notre joie en Dieu. Rappelons-nous son salut en Jésus-Christ et soyons dans la joie de pouvoir le recevoir et le vivre. Et je vous dis franchement que c'est ce qui me permet d'être paisible malgré les difficultés et les questions non résolues. Ma joie est en l'Éternel. Il est ma force et je prie qu'il le soit pour vous aussi. Nous allons prier. Éternel, dans notre vie, que tu nous donnes de vivre en pèlerinage ici-bas, je ne pense pas qu'il y a beaucoup de moments où il n'y a pas de question que nous pouvons avoir qui est irrésolue, où nous ne pouvons pas nous dire « Mais pourquoi ? Pourquoi ceci arrive ? Pourquoi je suis dans cette situation ? Pourquoi cette personne agit-elle de cette manière ? » Aide-nous, Père, à avoir ce même réflexe que Habacuc, de nous arrêter, de réfléchir, de nous tourner vers toi, de chercher ta présence, de te remettre aussi cela dans tes mains. Et que si nous n'avons pas la réponse, eh bien que tu puisses nous donner de trouver notre paix en toi. Et que si tu nous donnes une réponse qui nous permet de progresser, que cette réponse puisse nous aider à te glorifier, à t'aimer encore davantage, à aimer ceux qui sont autour de nous encore davantage, à être ces fidèles serviteurs qui, comme Habacuc, alors qu'il commence ce livre en se posant ces questions si profondes et si, qu'on comprend tellement bien, que nous puissions terminer comme lui en disant que tu es notre Seigneur, notre force, que nos pieds sont semblables à ceux des biches, que tu nous fais marcher sur des hauteurs. Ô permets, Seigneur, que chacun ici présent puisse le saisir et le comprendre, parce qu'ainsi nous pouvons réellement être dans la paix en toutes circonstances. Dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.
L'enseignement est maintenant terminé. Si vous désirez profiter d'autres ressources de l'Église réformée baptiste de Neuchâtel, n'hésitez pas à visiter le site www.erbn.ch. Que l'Éternel vous bénisse dans sa grâce.